déambulation.
Se faire réveiller par un texto d'alerte. S'habiller à la hâte. Traverser tout Paris pour rejoindre Stalingrad. Il est 5 heures du matin. L'heure de la rafle policière. Les descentes de police sur les campements de réfugiés sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes aussi. Nous sommes quelques dizaines de Parisiens à manifester notre solidarité, à répondre aux alertes pour arriver avant la police et avoir le temps de réveiller les réfugiés, leur expliquer ce qu'ils risquent, les informer de leurs droits. Que faire quand on devient le témoin d'une politique ouvertement hostile aux étrangers? Je décide de filmer. Pour garder une trace.
Sur la situation des exilés qui méritent attention, Solidaires d'Iwa a organisé sur 2 jours projections, débats, rencontres, infokiosque et collecte. Et là, on sent un délicieux mafé. On entend de belles discussions. On voit des illustrations qui bordent les livres et brochures qui appellent à la lecture.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Eh ben, du coup, il y a l'événement de Solidaires avec les projections de films ce week-end ici. Et depuis l'année dernière, depuis l'hiver dernier, je vais souvent à Briançon pour filer des coups de main. Selon ce qu'il y a à faire sur le moment, au début j'y allais surtout pour les maraudes et maintenant ça dépend de ce qui, selon les besoins quoi. Il y a des besoins à plein d'endroits différents et puis ça dépend un peu des périodes. Et là c'est les copains qui organisent l'événement, donc c'est cool d'être là et puis de transmettre les infos aussi aux gens, de montrer qu'est-ce qui se passe et puis de témoigner et puis de... ouais voilà.
Tu y allais combien de fois à Briançon ?
Eh ben, l'hiver dernier, j'y allais une fois par mois pendant l'hiver, entre une semaine et 10 jours. Du coup, voilà. Là, cet été, j'y suis allé un peu moins. Et puis là, depuis le mois de novembre, j'y retourne.
Et là, Briançon, ça en est où aujourd'hui ?
Là, le mois dernier, il y avait eu le refuge, les terrasses, qui ont dû fermer. Du coup, à cause de trop de personnes qui arrivaient, le refuge, il est prévu pour 60 personnes. 60-70, voilà. Et en fait, là, en l'occurrence, au mois de fin octobre, à un moment donné, c'est arrivé à... Il y avait 200 personnes qui étaient sur place. Donc, du coup, beaucoup trop de gens. Au bout d'un moment, ça posait des problèmes de sécurité, des problèmes de... Enfin, trop de gens au même endroit, c'est compliqué à gérer. Et voilà, il y a eu besoin de... Pour des conditions de sécurité et de dignité, de fermer le refuge fin octobre.
Okay. Ah ouais.
Et du coup, voilà. Donc le refuge a fermé et ensuite, les gens étaient dehors, en fait. Et il y a eu plusieurs actions qui ont été menées par, les solidaires et les réfugiés ensemble pour trouver des solutions, en fait. Trouver des solutions sur le moment et puis aussi... montrer au pouvoir public et aux institutions que la situation, il y avait besoin de s'en occuper, que ça fait déjà des années que cette situation elle perdure et que c'est que des bénévoles qui et des associations bénévoles qui assurent la gestion de cette situation et que là en fait depuis des années encore une fois de montrer et de dire que c'est aussi du rôle de l'État de prendre en charge ces problématiques là.
On est où là ?
Ici, on est à la salle des fêtes de Barnave.
Il se passe quoi ?
Et ben du coup, on est plusieurs solidaires, donc de 10. Donc les solidaires, c'est des personnes qui sont investies dans les luttes aux frontières à Briançon, mais aussi dans les luttes locales autour de l'aide à l'accueil des réfugiés, des migrants, des exilés. Et donc en fait, on a un petit groupe et on a décidé d'organiser une projection. Où on projette un premier petit court-métrage qui raconte un peu ce qui se passe à Briançon à travers le regard de deux chercheurs en flux migratoire qui ont décidé de faire un petit documentaire de 17 minutes. Suite à ça, nous, on ouvre le débat en fait, avec les personnes qui viennent voir le docu pour répondre à certaines questions et puis aussi raconter ce qui se passe là-bas, semer des petites graines dans les têtes des gens. Et derrière, il y a la Parallèle qui vient, qui offre un mafé.
C'est quoi la Parallèle ?
C'est une association qui est dans le Diwa, qui est un réseau d'hébergeants. Et ils proposent en fait un toit pour des personnes qui arrivent, des familles, et un lieu où vivre, où dormir pendant un temps, qui les aide aussi dans leurs démarches administratives. Et pour pouvoir subvenir aux besoins financiers des aidants ou des personnes qui arrivent, ils organisent des cantines solidaires, où l'argent qui est récupéré sert à nourrir financièrement en fait, l'association, la structure.
Tu peux nous dire de quoi parle le film ?
Paris-Stalingrad, c'est un film de Adeb, je crois, le nom de la réalisatrice. Et ça parle en fait de Souleyman, qui est un jeune réfugié du Darfour, qui se retrouve à Paris, donc Paris-Stalingrad, qui est une place, qui est aussi une station de métro, dans le centre de Paris, et en fait il se retrouve là, et en gros on va suivre son histoire à Paris, pas son parcours de temps en temps, oui, mais c'est surtout son parcours une fois qu'il est en France, qu'il est à Paris, et donc dans toutes les démarches administratives, la pression policière à travers lui, mais aussi à travers des personnes qui sont solidaires, aidants, donc à Paris Stalingrad, qui était à une époque après le démantèlement de la jungle de Calais, il y a énormément de gens qui ont migré à Paris. Et cette zone, c'est devenu un espèce de camp, en fait, où il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés qui étaient là pour faire leur demande d'asile. Et que, du coup, ils se retrouvaient à attendre pendant des heures et des heures. C'était un travail très, très, très long. Et donc, on voit comment ça se passe. Et les rafles policières, les violences. Violences.
Le 24 octobre 2016, la jungle de Calais est détruite. Des centaines de personnes rejoignent Paris. Ils se retrouvent sur les campements de rue, autour du métro Stalingrad. C'est le début de l'automne. Les nuits sont de plus en plus fraîches.
Tu peux nous expliquer ce que c'est les maraudes ?
Oui, oui, du coup, carrément, c'est vrai, quand on dit maraude, des fois, il y a aussi les maraudes de distribution où on donne les secours pop et tout ça qui donnent de la nourriture ou des boissons chaudes. Là, en l'occurrence, à Briançon, les maraudes, c'est pas ça. Les maraudes, c'est des personnes qui vont dans la montagne pour réduire les risques pour justement les réfugiés, les exilés qui passent la montagne de nuit. Dans des situations, donc du coup, pas de lumière parce qu'il y a les flics partout. Il fait super froid, genre en hiver, c'est entre moins 5 et moins 15 degrés. Et donc, les maraudeurs, le rôle, c'est de prévenir les risques, de mettre les gens à l'abri, en fait. C'est vraiment ça.
Tu peux m'expliquer un peu les adhésions ?
Oui, je vais laisser expliquer à madame qui vient d'arriver.
Ah oui, salut.
Bonjour.
Et du coup, les adhésions, c'est pour adhérer à l'association Tous Migrants qui aide les exilés à Briançon. Il y a des avocats, ils font de l'aide aux personnes exilées et aussi de l'aide aux personnes qui aident les personnes exilées. Donc quand on se prend des amendes, quand il y a des gens qui passent au tribunal pour les faire des recours, etc., ils fonctionnent comme ça. Du coup, l'état d'action, c'est simplement on remplit ça et demain, on va à Briançon, on les amène. Et, Et comme ça, ils peuvent rajouter les mails, envoyer des informations, et, etc.
Et les fonds là, que vous collectez, avec l'info-kiosque, les affiches et tout, ça va dans quelle caisse?
Du coup, l'adhésion, ça va directement à Tous Migrants, mais qui n'est pas la seule association qui est présente à Briançon. Il y a aussi des collectifs qui n'ont pas des statuts d'association ou d'ONG, mais qui sont très présents, ou même des collectifs qui font de l'accueil et qui, du coup, ils ont besoin aussi de fonds pour que ce soit des repas, que ce soit de s'habiller ou payer un logement qui accueille les maraudeurs, maraudeuses qui vont là-bas, etc.
Donc vous redistribuez?
Oui, on l'amène et on voit les besoins qu'il y a. Et en fonction des besoins, bah, on distribue. Hop, et tu l'as mis là?
Ok. On n'est pas obligé, hein, c'est vraiment une... Qu'est-ce que vous lisez?
Ce que je suis en train de lire, un livre sur une revue sur la montagne. Et l'accueil que peuvent faire les gens de la montagne des personnes qui passent.
Vous avez trouvé ce livre ici?
Voilà, j'ai trouvé cette revue ici qui s'appelle Nunatak.
Oui.
Nunatak.
Oui.
Voilà, donc si vous êtes intéressé par les questions de montagne, vous pouvez prendre cette revue Nunatak. Et j'ai mis voir la projection sur l'accueil des migrants en France et à Stalingrad en particulier. Stalingrad, le quartier de Paris, hein, pas Stalingrad en URSS.
Et vous vous êtes intéressé à ces problématiques? Vous êtes sensibilisé?
Bien sûr, oui, puisque dans le Diwa, il y a toujours eu des personnes accueillies. D'autres qui sont partis, hein, les protestants qui ont été obligés de partir, et puis les Italiens qui sont arrivés, et puis maintenant d'autres migrants de différents pays.
Donc vous en avez vu passer des gens?
J'ai vu passer des gens, oui. Et moi aussi, je suis de passage, de toute façon. Nous sommes tous de passage.
Baptiste, tu peux nous dire ce que tu fais?
Je projette. Je vais projeter le film Paris-Stalingrad maintenant.
Du jour où son village a été incendié par des milices militaires au Sud-Soudan, jusqu'à son arrivée à Paris, 5 longues années se sont écoulées. Souleymane est sur la route depuis l'âge de 13 ans. Et je vois bien qu'il n'est pas le seul adolescent esseulé, livré à lui-même dans les rues de Paris. Dans le quartier de Stalingrad, d'autres, beaucoup plus jeunes que lui, errent sans savoir où aller.
On va vous demander de partir, messieurs-là. On va les faire monter dans le bus, alors restez pas devant.
S'il vous plaît, reculez, monsieur.
Allez, s'il vous plaît, reculez, messieurs-là, merci. Allez-y.
C'était la 17e ou 16e rap policière depuis le 31 juillet.
Oui, oui. Human rights.
We want human rights.
We want human rights.
We want human rights.
We want freedom.
We want freedom.
We want freedom.
We want freedom.
No police, no police.
No police, no police.
No police, no police.
No police, no police.
Tu dors où?
Dehors.
T'as quel âge?
15 ans.
T'as 15 ans.
Madame, elle est enceinte, je veux pas la laisser toute seule, c'est tout.
Mais madame, on va s'en occuper.
Là. Mais non, vous vous en occupez pas, elle est dans une nest, elle est enceinte. Ça fait un an qu'elle est là.
What do you want? Hey, I'm asking you guys, what do you want?
Là, ils ont embarqué des gens au centre de rétention et d'autres vers une antenne de police.
La préfecture ne nous donne pas de place. Nous n'en avons pas assez. Alors ça sert à rien que vous vous tassiez là. Vous tassiez là.
17e ou 16e rap policière.
Mais madame, on va s'en occuper.
J'ai resté un petit peu, après j'ai parti les douches, après j'ai cuisiné, après j'ai regardé un petit peu le français, après je vois match, j'ai regardé match Chelsea-Barcelona, après je dors, le matin elle vient ici.
L'exil est menteur. Il se joue de toi avec ses belles avenues illuminées. Il creuse ta blessure pour rien. Il s'en moque que tu sois blessé, trompé, malade ou épuisé. Il s'en moque. D'illusions, il te bercera. Il nourrit ta tristesse comme le vent dans les voiles du bateau. Il n'a ni peur ni sentiment. Quand le feu de la pauvreté te ronge, la peur règne sur ta vie. La porte de retour est fermée. Un feu intérieur te brûle. Ta mère n'est plus là pour te dire « Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant d'absence ?» Plus personne n'est là pour te dire « Viens labourer le champ. Viens te reposer à l'ombre d'un arbre. »
C'était des extraits du film Paris-Stalingrad. Et après la projection, l'équipe solidaire a prévu un temps de débat, de questions et d'échanges. Et ce qui est beaucoup revenu chez les personnes présentes, c'était justement la question d'agissement, ici même. Qu'est-ce qu'on peut faire, à notre échelle, face à cette misère matérielle, administrative et psychologique ? Ce à quoi les solidaires ont répondu par une petite liste d'associations actives par chez nous, avec leurs spécificités d'action. Et donc, il y a notamment la CIMAD, présente aussi au niveau national, qui travaille sur du plaidoyer, pour faire remonter les infos à l'échelle nationale, qui travaille aussi sur de la sensibilisation en milieu scolaire, et c'est une association qui propose des formations et des permanences pour s'informer sur les droits. Et il y a bien sûr la Parallèle, ADI, anciennement Migrants 26, pour participer aux cantines solidaires et au logement des migrants-migrantes qui arrivent dans le Diwa. Et elles ont rapporté aussi l'existence d'une petite équipe du Diwa étant sur un projet d'accueil qui s'apparenterait à une communauté Emmaüs. En fait, les ressourceries comme Emmaüs ne sont qu'une partie de ce que fait l'accueil. C'est juste l'activité économique qui fait tourner la structure. Mais donc, les compagnons sont accueillis, sont logés et accompagnés dans leur démarche et perçoivent une allocation communautaire qui n'est, attention, qu'une indemnité et sans contrat de travail. C'est l'agrément OACAS, Organisation Accueil Communautaire et d'Activité Solidaire, qui permet de prendre en charge des personnes sans papier, en accord toujours avec la loi. Et donc, via la Parallèle et les allers-retours à Briançon, c'est à force de rencontrer des personnes qui n'accèdent pas à la régularité qu'il leur ont paru que ce format était le mieux pour fonctionner ici, dans le Diwa. C'est aussi une manière officielle de pouvoir accueillir des personnes sans papier et leur proposer un cadre avec des conditions de vie décentes. Parce que voilà, on sait que dans les centres de logement d'exilés, c'est pas toujours facile d'attendre des procédures, d'être valorisé par aucune activité en contact avec les gens d'ici. Donc voilà, c'est un petit groupe qui prépare ce projet sous la nouvelle association La Trame. Tendez l'oreille, une lettre d'information viendra bientôt.
J'ai vraiment besoin d'aider, quoi. Enfin, puis bon, moi j'ai grandi à Paris, donc ça je l'ai vu tous les jours depuis que je suis petite. Hein. Et je reconnais un peu tous les coins. Hein. Et c'est vrai que c'est choquant. Quand tu vois tous les jours, là, ça cligne en cours. Il y a un campement qui est assez connu là-bas, où les gars se font tout le temps gicler. Et c'est un gros campement sous un pont. Et je sais pas, les gens font leur vie autour de ça, ouais, comme tu disais juste avant. C'est limite, ça fait chier, quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Alors que les gars, ils dorment en plein hiver dans des tentes. Ils se font dégager dans les périphéries de Paris pour être à nouveau dans la merde, quoi. Enfin...
Et puis, c'est des réseaux qui sont... Enfin, c'est des groupes d'amis aussi, je pense, qui se forment et qui sont complètement démantelés parce qu'ils savent plus où aller. Enfin, j'ai trouvé ça horrible quand le mec, à un moment, il est à Nancy, il sait plus où sont ses deux potes, en fait. Il y en a un qui est peut-être rentré au pays, il y en a un qui est peut-être passé en Angleterre, il sait pas, ils sont peut-être morts, on n'en sait rien. Ils sont peut-être dans la ville d'à côté et ils peuvent pas... Enfin... Ouais, c'est...
En plus, j'ai bien aimé une des paroles dans deux personnages principaux, on va dire, là, quand il dit que... Bah, ils en seraient pas là s'ils étaient pas obligés de partir, en fait, quoi. Genre, les gars, réfléchissez, s'ils viennent demander de l'aide ici, c'est parce que tout le monde est en train de se faire buter, puis il est en guerre, enfin... Je sais pas, un peu de solidarité humaine, quoi, il y a toujours moyen de se débrouiller. Je sais pas, de toute façon, ça, c'est l'égoïsme pur du système d'aujourd'hui, quoi. Consommation, consommation, tout le monde veut rester dans son petit confort. Ouais.
Ouais, moi j'ai cette image de la... Comment t'appelles les grosses machines, là? Les pelleteuses les...
Ouais, la pelleteuse qui défonce sous les tentes, là.
Moi, c'est à ça que je me confronte tout le temps. C'est les flics qui sont devant eux, les mecs qui sont dans les pelleteuses. Est-ce qu'ils ont la conscience de ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de détruire des maisons, le logement de personnes, quoi.
Ouais, mais il n'a pas le choix, il perd son boulot s'il ne le fait pas.
Mais pouah, c'est horrible cette conscience. Comment on peut après rentrer le soir chez soi et dire hop, j'ai fini mon taf? Un mec, il y a des billets.
T'as fait quoi aujourd'hui?
Moi j'ai niqué 100 poils de tente, c'était génial.
À la projection Paris-Stalingrad, j'ai rencontré Boubou, que je connaissais déjà un peu avant, et je l'ai invité pour qu'il nous raconte son histoire. Salut Boubou.
Salut.
Tu veux nous raconter un peu d'où tu viens?
Ouais, je viens de Mali.
Et tu es parti?
Ouais, je suis parti.
Je te laisse la parole.
Ok. J'ai perdu mes parents depuis que j'étais petit. J'étais avec mon oncle, mais on ne s'entend pas beaucoup. Du coup, depuis moi, je suis à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à me débrouiller. Jusqu'à là, maintenant, je suis seul, je n'ai pas de parents. Ça, j'ai pris la route de Libye pour travailler un petit peu jusqu'à Libye. Libye, après, j'ai pris le bateau pour l'Italie.
Oui.
Là, j'ai arrivé à l'Italie, j'ai resté là-bas pendant 3 mois, 4 mois. Après, j'ai passé pour venir en France.
T'es passé par où?
J'ai passé par 20 000 ans.
Oui.
20 000, après Nice. Nice, Marseille. Marseille, Paris. J'ai resté à Stalingrad pendant 2 mois. J'ai tenté pour déménager sous la pluie. J'ai fait 2 mois à Stalingrad. Sous le pont, tu vois. Jusqu'à mon 3e mois, j'ai gagné pour faire mon déménager. Tu vois, il m'a donné 3 mois. Après, là, mon 3 mois, c'est fini. J'ai fait les commissions. Mon commission ne s'est pas passé, je m'ai rejeté. Du coup, depuis ça, je suis là en France. Maintenant, ça fait bientôt 5 ans.
Ça fait 5 ans que tu es en France?
Ça fait 5 ans, ouais.
Et à part Paris, tu es...
Par Paris, j'ai fatigué là-bas. Je fais 4 ans, j'ai dormi dehors, moi. 4 ans, j'ai dormi sur les ponts, soit à Jaurès, soit à La Chapelle. Après, on a fait une marche de sans-papiers à Montpellier jusqu'à Paris à pied.
T'as fait Paris-Montpellier à pied?
Ouais, Montpellier-Paris à pied. On a fait 1 mois la route. C'est pour ça que j'ai rencontré Dalé Diwa. Maintenant, je suis Dalé Diwa.
Comment t'as rencontré le Diwa?
J'ai rencontré parce qu'on a fait les marches à Montpellier jusqu'à Nîmes, avion, Mako, jusqu'à Valence. Les jours qu'on est venu à Valence, j'ai rencontré avec les gens de Diwa, les parallèles. C'est le jour qu'ils sont venus faire les manger là-bas. C'est le jour que j'ai rencontré les gens de parallèle, ici, dans les Diwa.
Et après, tu as décidé?
Après, j'ai décidé. Je ne peux pas rester à Paris pour dormir sous la pluie, les ponts. Après, j'ai contacté les gens de Diwa pour que si je peux trouver les places. On m'a dit que OK, ils vont me trouver les places pour que je vais venir ici. Je suis venu ici, c'est une famille qui m'a blessé. Ils sont trop bons. Ouais. Maintenant, j'ai dormi au chaud. Je suis bien maintenant dans les Diwa.
Et t'habites où?
J'habite à Polyane.
C'est à côté de Luc?
C'est à côté de Luc, 5 minutes de Luc. C'est une ferme. Ouais.
Et tu fais de la ferme, toi?
Ouais, je fais la ferme, ouais. On a des poules là-bas, on a des moutons.
Et t'en es où, avec les papiers?
Ouf, pas encore, Je n'ai pas les papiers encore.
Ta demande d'asile, elle a été refusée?
Oui, elle a été refusée par des nouvelles. Moi aussi, j'ai laissé.
T'as laissé tomber?
Ah, j'ai laissé tomber, ouais.
Et ils disent quoi?
Ils disent quoi maintenant? Sauf que je vais voir le travail, les contrats, soit les CDI, soit je vais être avec un Français qui peut m'aider. C'est comme ça.
Et ils t'ont dit que le Mali...
Il n'y a pas de guerre de Mali. Il n'y a pas rien. J'ai dit avant.
C'était ça leur argument?
Ouais. Parce que moi, mon dame à l'asile, j'ai dit Mali, c'est pas bon pour moi. Je ne peux pas rester là-bas. C'est ça, j'ai parti. Je viens du Mali, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de guerre. Les jours que j'ai parti au Ofra, Ofra, tu sais, si tu as fait Damanagil, ils vont te convoquer pour que tu vas partir dire ton histoire.
Ah oui.
Ouais, le jour que j'ai parti là-bas, après, je m'envoyais les courriers que ouais, Mali, il n'y a pas de guerre là-bas. Ok.
Ça, c'était à Paris?
Ouais, ça, c'était à Paris, ouais.
Et donc, en fait, tu es resté à Paris pour rien?
Oui, yeah, j'ai resté à Paris pour rien. Je sais pas, quelque chose. Même à manger, des fois, j'ai rien. J'ai des bouches comme ça. Des fois, j'appelle les 115, mais comme Paris a du monde, il y a beaucoup d'officiers là-bas, tu vois. C'est un peu compliqué pour moi.
Et en tout, t'as traversé combien de pays?
En tout, je peux dire, j'ai traversé 5 pays comme ça, ouais, 6 pays jusqu'à ici, jusqu'en France, ouais.
T'es passé par la mer ou pas?
Ouais, j'ai passé par la mer, j'ai perdu mes amis même.
Dans la mer?
Ouais, j'ai perdu mes amis dans la mer, j'ai perdu mes amis à Libye, dans les prisons. J'étais prisonnier là-bas pendant 10 mois.
Et après la Libye, c'était...
La Libye, c'était galère pour moi. Je suis fatigué là-bas, ouais. Ouais. Comme je parle un peu arabe, c'est ça qui m'a sauvé, quoi. Parce que moi, je parle arabe un peu. J'ai rencontré avec quelqu'un, c'est lui qui m'a sauvé.
Et au Mali, on parle quelle langue?
Mali, au Mali, il y a beaucoup de langues.
Et toi, ta langue?
Moi, mon langue, c'est soninké.
Ok.
Mais du coup, j'ai vu la sens, je parle beaucoup de langues. Je parle soninké, je parle peul, je parle bambara, rasonké, maninka, djula, olf. Je parle encore arabe.
C'est 8 langues, là?
9, même, ou 10.
Ah non, ouais, ouais. Et le français?
Ouais, le français, italien aussi un peu.
Non.
Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai vu la sens pour ça, ouais. Ça, quand même, ouais. Dieu m'a donné ça, ouais.
Et pourquoi la France?
Pourquoi la France?
Ouais.
Parce que moi, je dois venir ici. C'est la France qui connaît ce Mali. Depuis que je suis tout petit, j'ai dit qu'il y a tant. Je voulais faire les locales même, mais je n'ai pas quelqu'un qui va payer mon local. C'est ça que je n'ai pas vu, l'école français.
Au Mali, on parle français?
Ouais, au Mali, on parle français. Il y a des écoles là-bas, mais... Sauf que si tu as des parents, tu vas rentrer. Si tu n'as pas les parents, tu ne peux pas faire l'école là-bas. Parce que c'est cher.
C'est cher.
Ouais.
Et dans le Diwa, est-ce que tu as envie de faire des choses?
Ouais, dans le Diwa, ouais, moi j'ai envie de faire quelque chose. Ouais. Sauf que je n'ai pas de boulot, je ne travaille pas. Tu vois.
Et tu chercherais du travail?
Ouais, je cherchais du travail, ouais. Parce que mon métier même, c'est la cuisine. Je connais la cuisine.
Tu es cuisinier?
Ouais, je peux faire la cuisine, ouais.
C'est quoi ton plat préféré?
Mon plat préféré, je peux faire tous les plats, des plats français, espagnols, plats italiens. Je peux faire plats africains, mafé, tchèb, tu vois. Je peux faire les paella, tu vois.
Et tu m'as dit d'écouter une musique. Est-ce que tu peux me dire ça dit quoi dans la musique, les paroles?
Ouais, ça dit mon parole parce qu'il dit que ouais, si tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas lui faire manque de respect, il ne connaît pas son histoire. C'est ça que j'aime bien, cette musique.
C'était un reportage sur les projections à Barnave autour des questions des migrants et des migrantes. On aura entendu des solidaires, des extraits du film, des réactions et la voix de Boubou qui est en situation d'exil ici dans le Diwa. Production Diwa.